ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Monsieur Henri Planet. Bonjour, bonsoir Henri, vous venez nous parler de Pourim, parce que nous sommes dans la semaine de Pourim. C'est à la fois une grande fête pour nos amis juifs, mais aussi une fête qui signifie le drame. Vous allez nous expliquer tout ça, mais vous venez aussi parce que vous êtes de l'amitié judéo-chrétienne de France et principalement aussi de Toulouse, et depuis 1968, depuis un certain temps. Et vous êtes mon aîné dans cette association, dans cette amitié.
C'est ça. Bonjour Benoît. C'est exact, je suis avec...
Pardon, vous aviez mis le masque, mais là, maintenant, ça y est. Masque, c'est pour le carnaval, c'est pour Pourim, justement.
Très bien, d'accord. Alors, avec mon épouse Françoise, nous sommes depuis très longtemps amis de la communauté juive de Toulouse, et à travers nos relations avec l'amitié judéo-chrétienne, nous avons découvert l'amitié judéo-chrétienne de France, dont on a fait partie depuis le tout début des années 90.
Dont vous avez été, disons, le secrétaire national.
Et j'ai d'abord été membre. À l'époque, c'était le père Spranger qui était président.
Jésuite.
Et de cette association qui date de 1968, en sachant que l'amitié judéo-chrétienne de France date de 1948. On en parlera éventuellement un peu plus tard. Et je me suis retrouvé, quand le père Spranger a pris sa retraite, président du groupe de Toulouse, et par la suite, pendant 10 ans, secrétaire général national de l'association.
Un engagement dans la foi, il faut dire, dans la... Vous avez été de famille chrétienne, et puis pour vous, les deux testaments, c'est, j'allais dire, inné. Vous avez baigné depuis tout le temps dans la Bible.
C'est vrai. Bon, j'ai reçu, bien sûr, le baptême et une éducation catholique, comme mon épouse. Ma maman était d'une famille très catholique, puisque elle est la troisième d'une fratrie de 14 qui comporte plusieurs religieux, deux religieuses, un prêtre et de paroisse, et un autre qui était missionnaire à Madagascar. Tous les autres étaient de façon classique, militaire ou exploitants agricoles de l'Ouragais, ou des choses comme ça.
Mais avant la guerre et pendant la guerre, tous les catholiques et tous les chrétiens n'ont pas été proches des juifs, sans rappeler ces heures sombres, disons très vite, de l'antisémitisme et aussi de l'antisionisme. Alors, nous parlons d'amitié, ça veut dire que c'est la rencontre entre personnes et pas de choc des idées.
C'est ça. C'est vrai que, puisque vous parlez de la guerre, c'est vrai que les chrétiens ont eu un peu de mal au cours des siècles, et l'Église n'y fait pas exception, avec les juifs. Et au moment de la guerre, il était courant de dire que la France avait 3 ennemis, les francs-maçons, les juifs et les communistes. Donc, il est d'autant plus admirable que certaines familles, et relativement nombreuses, pas forcément croyantes d'ailleurs, il y avait de tout, ont, par pur humanisme, sauvé des juifs.
Nous allons justement évoquer le docteur Sefer et puis Annie Beck, qui ont été des piliers à Toulouse de cette amitié. Parce que justement, ils ont été des enfants cachés.
Les piliers, je ne dirais pas ça, des membres très importants de l'amitié géochrétienne, mais le vrai pilier s'appelle Gilbert Melka. Il était là depuis très longtemps, Je pense qu'il devait y être depuis le début des années 70.
À l'espace communautaire.
Au premier espace communautaire, bien avant le nouveau, celui du rempart Saint-Étienne. Ensuite, dans l'actuel. Et il était, on m'a donné, parce que plutôt que je... C'est la réalité, on m'a donné la présidence. Il était le seul juif du groupe. Tous les autres étaient des chrétiens, catholiques ou protestants. Et comme nous avions beaucoup d'amis dans la communauté, petit à petit, ça a ruisselé pour faire plaisir à notre président. Et on était arrivé à un groupe assez important qui comportait à peu près 50% de juifs, dont justement tous ceux qui étaient à Toulouse, des juifs sauvés par Madame Bergon du fait de qu'elle avait, comment dirais-je, d'excellentes relations avec l'archevêque ou après le cardinal Saliège, qui lui a confié beaucoup dans son juif par l'intermédiaire de plusieurs autres personnes. Il y a beaucoup de gens travaillaient avec Saliège dans des réseaux, etc.
Nous en avons parlé ici à Radio Présence. Et puis vous avez rencontré Édouard Drommelschlager.
Alors ça, c'est très vieux. Enfin, ça date de 83. Par hasard, on s'est rencontrés parce qu'on était tous les deux en voyage, enfin tous les deux, moi avec mon épouse, lui avec ses enfants, à Marrakech. Et on a fait connaissance avec lui, on a vraiment sympathisé. Et d'ailleurs, c'est une amitié très solide qui dure encore. Et par lui, on a rencontré des membres de la communauté juive. Certains étaient des dirigeants importants, et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on a pu développer à l'intérieur de la communauté juive le groupe d'amitié judéo-chrétienne.
Et puis, ça signifiait Rosh Hashanah, à toutes les fêtes.
C'est ça.
Des vœux, la politesse, l'amitié. Nous parlerons peut-être après la pause, parce que vous êtes venu parler de Pourim, mais déjà j'annonce que nous allons parler de l'importance du cardinal Dustiger, du père des bois dans la Shoah par balle. Mais d'abord, justement, la transition cette amitié, eh bien, c'est le sens de la fête qui, c'est en France, l'idée forte de Pourim. On a surtout cette idée du carnaval.
Oui, vous l'évoquez, la fête juive qui va avoir lieu très bientôt, qui est en réalité un mélange qui n'est pas le carnaval au sens où on l'entend, nous. C'est-à-dire, bon...
Déguisement et puis la fête...
Pour résumer, de quoi s'agit-il ? Tout le monde sait que après les invasions par Nabucodonosor, en une ou deux périodes, au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Juifs de ce qui était Juda à l'époque ont été exilés à Babylone. Pas tous, mais une grande partie. Plus tard, avec Darius, lorsque l'Empire perse a vaincu les armées Nabucodonosor, ce nouveau dictateur, on peut dire, a été clément avec les Juifs et les a laissé repartir tous ceux qui voulaient. Mais certains sont restés. Un de ses successeurs, appelé Assuérus dans la Bible, mais qui s'appelait, dont le nom classique est Xerxès II, a répudié son épouse pour une bagatelle. Mais il était réputé assez violent et cruel. Décide de prendre une autre épouse, on lui présente une quantité de très belles jeunes filles du pays, et son choix se porte
sur
une dénommée Esther, ou Hadassah en hébreu, ça dépend de... Et Et bon, très bien, jusqu'au... Tout se passe bien jusqu'au moment où l'oncle d'Esther, qui était son père adoptif...
Mardoché.
C'est ça.
Père adoptif.
Exactement. Mardoché, qui avait un poste relativement important au palais, avait d'abord, il faut le préciser, découvert un complot contre le roi, contre Assuérus. Il prévient Esther, la reine, qui avertit le roi. Et les coupables sont arrêtés, pendus. Enfin, le sort de ces braves gens est vite réglé. Quand Mardoché apprend plus tard qu'un dénommé Aman, devenu le favori du roi...
Quand on fait pourri, alors c'est la fête et tout le monde tue ce brave homme. Excusez-moi.
On va y venir. C'est le coup. Pour l'instant, c'est pas le bon côté que je veux évoquer. Le dénommé Aman est vexé parce que Mardoché refuse de s'agenouiller devant lui quand il passe. Donc il décide que ce type qu'il a découvert comme juif devait être pendu pour l'affront. Et que puisqu'il était juif, autant liquider tous les juifs du pays en même temps. Mardoché avertit de nouveau Esther, qui avertit le roi, je résume parce que ça se passe en plusieurs épisodes, et le roi convoque Aman et lui dit « Que voudrais-tu pour honorer quelqu'un qui a bien agi vis-à-vis du roi ?» Pensant qu'il s'agissait de lui, il dit « Il faudrait faire des choses extraordinaires, lui donner un cheval magnifique, un manteau, enfin des tas de choses. » Il dit « C'est très bien. » Le roi lui dit « C'est très bien. Va chercher Mardoché et tu fais exactement ce que tu avais dit. » L'autre est furieux, mais Esther revient à la charge en disant « Roi, mais non seulement il a voulu exécuter Mardoché, mais il voulait tuer tous mes compatriotes juifs. Donc il faut faire quelque chose. Avec un gaillard comme Assuérus, ça n'a pas fait un pli. On a massacré tout le monde et Aman et ses enfants, il paraît qu'il en avait 10, ont été pendus. La chose est réglée. Alors, pour en venir aux deux aspects de ce qui reste de cette histoire,
c'est que commémoration aujourd'hui, chaque année, voilà. Par des Juifs.
Alors, on commémore d'abord, pas par la fête, par le jeûne, parce que sachant à qui elle avait affaire, Esther jeûne 3 jours avant de rencontrer le roi et demande à Mardoché de prévenir la communauté pour qu'elle jeûne avec elle.
Une autre symbolique du jeûne, puisque nous sommes en carême, les chrétiens, mais au
exactement.
Niveau du judaïsme, il y a aussi souvent ces
il y a plusieurs périodes de jeûne dans le judaïsme. Et enfin, pour revenir à ce qui vous ferait très plaisir, c'est qu'à chaque fois, le jour, le jeûne c'est la veille, le jour de la fête d'Esther, on lit à la synagogue l'histoire d'Esther. Et à chaque fois que le nom d'Aman est évoqué, on fait en protestation, toute l'assemblée fait du bruit, agite des crécelles, etc. Et par extension, ensuite, il y a des fêtes avec des masques, etc.
Ça permet aux enfants de se rappeler cela. C'est comme ça. Au moment de Kippour ou de Pessah. Il y a à chaque fois très important cette commémoration entre les générations. Ce qui nous amène d'ailleurs, Christophe va nous passer cette musique Kletzmer.
Oui.
Mais avant d'écouter, je voudrais évoquer ce psaume 18, pour certains le 19. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre qui rend sage les simples. Le commandement du Seigneur est limpide. Limpide, il clarifie le regard. Et ce psaume, nous le partageons avec nos amis.
In Frieden, singen wir, es singen wir, es klingt es so schön. Es hat noch gesungen, die Bobe mitten sehen, wenn sie seinen Kindern noch gewöhnt.
foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et aujourd'hui, avec Henri Planet, vous venez nous parler de Pourim et de l'amitié judéo-chrétienne de France, avec également son siège à Toulouse, où vous avez été pendant longtemps un des animateurs.
C'est ça. Bon, l'amitié judéo-chrétienne est une association qui date de 1948, à l'initiative d'un grand historien juif qui s'appelait Jules Isaac, qui a perdu une bonne partie de sa famille dans la déportée.
Supprimer le mépris.
Il a parlé, oui, du mépris vis-à-vis des juifs au fil du temps, mais il avait écrit surtout Jésus et Israël. Parce qu'il avait bien conscience que Jésus avait vécu en juif tout au long de sa vie, il l'a démontré.
Et il était juif, de toute façon.
Oui, mais non, absolument pas religieux. Il était juif, ça c'est clair, Isaac, hein, par définition. Et à la suite de ça, il a créé un groupe après les 10 points de Célisbert dont vous vouliez parler, parce que il y a eu avant l'amitié judéo-chrétienne, il y avait quelques groupes chrétiens pendant la guerre, notamment dans les pays anglo-saxons et un peu en France, qui avaient créé des associations, on va dire, pour lutter contre l'antisémitisme et réagir à tout ce qui se passait. Donc, en 48, Jules Isaac crée une association à Aix-en-Provence, puis immédiatement après, à Paris, avec des gens comme le père Daniel Loup, etc.
Puis après, il y a eu le Vatican.
Alors,
Vatican II.
Oui, c'est plus récent. Le groupe de Toulouse date de 68. Vatican II, c'est plus tard, c'est 65. Mais l'Église a eu quelques difficultés à comprendre. Il y a des controverses vis-à-vis de l'attitude de Pie XII, des pour et des contre. En tous les cas, ça a bougé à partir des années 60, parce que Jules Isaac a rencontré le pape de l'époque, Jean XXIII, et il a eu un relativement long entretien avec lui qui a marqué Jean XXIII, lequel a tenu, par l'intermédiaire du cardinal Béard, qui était proche de lui et proche des problèmes des relations avec les Juifs, qu'il y ait quelque chose pour cette question à l'intérieur de tout ce qui allait résulter du synode de Vatican II.
Nous allons faire un saut dans l'histoire parce que je vois que le temps nous est compté.
D'accord.
Mais vous vouliez parler à la fois de l'association Yahad et puis également de l'avenir de nos relations entre juifs et chrétiens.
Alors, Yahad est une association qui est à l'initiative du père Lustiger et qui a demandé à un de nos amis de l'amitié judéo-chrétienne, le père Desbois, de faire en sorte que les évêques et archevêques du monde rencontrent à New York toutes les communautés juives qui existent, qui sont à peu près toutes représentées à New York. Bon, en plus, le père Desbois, il faut savoir que, entre autres, il s'occupe de tout ce qui est concerné par la Shoah par balle. Il a fait découvrir des centaines
de tombes
de juifs assassinés pendant la guerre. Il a fait un travail extraordinaire. Il a maintenant une équipe très importante qui continue les recherches. Il poursuit d'ailleurs sur tous les génocides du globe, et il s'intéresse à ce que font les Russes en Ukraine, etc. C'est quelqu'un d'absolument extraordinaire.
Alors plus près de nous, il faut parler du Service international de la documentation judéo-chrétienne et de la revue Sens.
Alors, la revue Sens date de 1975, Elle est dirigée par un monsieur Yves Chevalier, qui est un personnage de très grande valeur, et qui paraît maintenant, elle paraissait autrefois tous les mois, mais maintenant elle paraît tous les trimestres, quatre fois par an.
Avec des échanges d'universitaires, de rabbins, de prêtres.
C'est ça. Beaucoup d'articles de gens qui sont conscients de la richesse du dialogue.
Les articles de fond, par exemple, pour la recherche au niveau des épîtres de Paul ou même de l'histoire. Oui. Mais peut-être faut-il dire dans notre société laïque l'importance du dimanche matin, où justement il y a les émissions. Et je pense, il n'y a pas longtemps, dimanche dernier, c'était sur Job, la figure de Job, vue à travers les différentes représentations religieuses.
Oui.
Même d'ailleurs dans l'islam, Job, et pour ce moment de réflexion, parce que devant la détresse et la mort, comment peut-on encore croire en Yahvé ou en Dieu après Auschwitz ou après dans ces moments de détresse?
Alors là-dessus, il faut se référer au judaïsme qui considère qu'à la fin du sixième jour, Dieu ne se repose pas parce que Dieu n'est jamais fatigué, mais s'arrête.
Il nous laisse continuer le travail de la création.
Les Juifs en tirent la conclusion que Dieu a laissé le monde aux mains des hommes.
Responsabilité.
Ils en ont la responsabilité. Il n'intervient plus. Et malheureusement, de temps en temps, trop souvent, c'est le mal qui l'emporte sur le bien chez les hommes.
Alors, vous aviez apporté à la fois la charte de l'amitié judéo-chrétienne, dont vous pouvez lire seulement peut-être le deuxième article, et puis nous continuerons notre réflexion par le psaume de Babylone,
d'accord,
qui nous donne plein d'espoir.
Très bien, très bien. Alors, l'article 2 précise exactement le but de l'amitié judéo-chrétienne qui a pour tâche essentielle de faire en sorte qu'entre judaïsme et christianisme, la connaissance, la compréhension, le respect et l'amitié se substituent aux malentendus séculaires et aux traditions d'hostilité.
Oui. Nous aurons l'occasion ici dans cette radio de venir parler d'autres fêtes, donc Pessah, Pâques, et puis aussi la fête que l'on dit proche de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, c'est-à-dire à la fois le don de la loi et d'autres fêtes des moissons. Vous pouvez nous lire ce psaume sur les fleuves de Babylone. Nous avions pendu nos harpes.
Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, Jérusalem. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disaient-ils, quelques chants de Sion. Donc ils ont chanté « Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, Jérusalem ».
Et nous voyons de la diversité de ces chants avec la musique Klezmer que nous avons écoutée tout à l'heure et puis aussi toutes ces mélodies selon que on vient d'Afrique ou d'Europe centrale, comme des Ashkenaz ou Séfarades.
La musique Klezmer qu'on a entendue était Ashkenaz, c'est-à-dire d'Europe de l'Est.
D'Europe de l'Est. Eh bien, à bientôt pour la fête de Pourim et de Shavuot. Merci Christophe pour l'enregistrement.
Merci à vous et à bientôt.